Amis potonaux, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre. On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. Une émission, alors je ne sais pas si on va mettre un point d'interrogation ou pas, intitulée « La bonne voie ». Est-on dans la bonne voie ? Oui, non. Vous allez avoir l'occasion d'intervenir sur le forum ou sur les différents chats pour donner votre avis si vous le souhaitez. Pour débattre des différents points qu'on va détailler juste après avec moi ce soir, donc Dissident, salut Dissident.
Salut Osvaldo, salut à tous.
Dissident qui est un grand fan de Joshua Duffus, et non pas Dufus comme certains disent de manière tout à fait ridicule. Avec nous ce soir également Pat, salut Pat.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
La soirée d'anniversaire de mariage s'est bien passée ?
Ça ne pouvait pas que mieux se passer du côté de chez Marcon. Franchement, c'était extraordinaire.
Oh, super, ça nous fait plaisir. Également avec nous ce soir, est-ce que je vais redire qu'il a commis la passion selon Saint-Etienne ? Non, parce que les gens vont croire que j'ai des actions. C'est qui ton éditeur par hasard ?
Il s'appelle En Exergue.
En Exergue, superbe nom pour un éditeur, magnifique. Et donc, par hasard, qui est là ce soir. Salut, par hasard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et évidemment, l'homme le plus important de Poteau Carré, celui qui impose le vouvoiement, c'est Verivel. Salut, Verivel. Bonsoir, monsieur Verivel.
Salut. Oui, fais attention à ce que tu dis, parce que je te coupe la chic. Bonsoir à tout le monde et bonsoir, Osvaldo.
Et alors, ce soir, on va débattre de quoi ? On va parler... d'un petit événement quand même, la première défaite face à Guingamp. Il y en a qui envoient des messages, je dis il y en a des participants que je ne vais pas, que je vais pas dénoncer, qui envoient des messages qui n'ont rien à voir, j'ai des gros pop-up sur mon écran, ce qui fait que ça me perturbe. Donc, la première défaite face à Guingamp, on va parler de différents points là-dessus, en particulier Orneland, ses choix, il en a pris plein la tête à la suite de cette défaite. On va parler un petit peu de tout ça, mais pas seulement. On va parler aussi du match à Montpellier, de cette réaction ou pseudo-réaction. Enfin, on va voir ce que chacun en pense. Moi, je suis assez circonspect par rapport à ça. Chacun donnera son avis, évidemment. On va parler de celui duquel tout le monde semble parler, que ce soit les journalistes, les supporters. C'est Lucas Stassin. Alors, Lucas Stassin, est-ce que c'est un immense cador ou est-ce qu'il y a un emballement qui est assez peu fondé au bout du compte ? On va discuter de ça et puis de la perspective qui part au mercato hivernal aussi, car il semblerait que ça soit d'ores et déjà acquis, qu'on se fasse hacker sur le Castassin au mercato hivernal. Et puis, on terminera avec un petit mot sur le match qui nous attend samedi face au Mans, une équipe en forme, une équipe qui monte en puissance. Une équipe dont il faut se méfier. Alors, on va commencer avec par hasard. Ce n'est pas tout à fait le hasard parce que je suis allé voir le match face à Guingamp au stade et j'ai été gentiment véhiculé par hasard. Et sur le retour, par hasard, tu étais très critique à l'égard d'Orneland. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des griefs que tu avais à son encontre à l'issue de cette rencontre et est-ce que tu les as toujours ce soir ?
Bon, le temps a un petit peu fait son œuvre. Tu fais allusion à l'immédiat après-match et à la déception justifiée que je ressentais. Le principal reproche en fait, que je lui faisais, au-delà du fait que globalement, c'est quand même un coach qui ne me séduit pas tellement, mais sur cette soirée-là, ce qui m'a gonflé, c'est de voir en fait sa gestion de l'effectif et son absence de turnover, son absence quasi totale de turnover en fait, sur les trois matchs de la semaine, puisque pour rappel, c'était le troisième match en sept jours, Guingamp. Et en fait, bon, on imaginait tous qu'il y aurait un petit peu de turnover, notamment sur le deuxième match contre Amiens, pour éventuellement... remettre pour le match devant 35 000 personnes contre Guingamp l'équipe type. Il n'y a pas eu de turnover à Amiens et du coup, il n'y en a pas eu quasiment non plus contre Guingamp. Ce qu'on a tous constaté, c'est qu'il manquait quelque chose en termes de niaque, d'envie, je ne sais pas, mais de dépassement, de fonction, enfin d'envie d'emballer le match. Il a manqué beaucoup de choses à cette équipe, et notamment aux attaquants qui ont, je trouve, sur ce match, étaient particulièrement médiocres, les trois. J'ai le souvenir que nos entraîneurs précédents avaient tendance à faire sortir à chaque match en premier les attaquants, considérant qu'un attaquant qui manque de fraîcheur n'a plus de valeur. Et il a tendance, enfin là en l'occurrence, il a fait un peu l'inverse. Et j'en ai beaucoup voulu. Bon, voilà, donc sur ce match-là, c'est vrai que les griefs que j'ai un peu, j'arrive à enterrer, à masquer parce que le début de saison est objectivement bon. Les griefs que j'ai à l'endroit d'Arneland, ben, je les ai quand même. Ils sont bien ressortis ce soir-là, à cause notamment donc de ce turnover, de cette absence de turnover.
Oui, tu parles effectivement de l'absence de turnover, de la prestation médiocre des trois attaquants. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a l'absence de turnover, il y a le coaching aussi. Il y a le projet général de jeu. Dissident, je viens vers toi. Est-ce que, bon, on sait que tu as déjà été critique vis-à-vis d'Orneland et qu'en particulier, compte tenu de la saison apocalyptique de. La saison dernière, tu avais un peu de mal à comprendre qu'il puisse conserver son poste. Est-ce que tu as l'impression de mieux voir le projet de jeu ou est-ce que c'est toujours flou pour toi? Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est ressenti particulièrement contre Guingamp, mais qui reste vrai de manière générale?
Bah écoute, moi j'aimerais bien défendre un peu Orneland, mais j'y arrive pas en fait. Hein. J'ai un peu un biais depuis la saison dernière, on en a déjà discuté. Moi j'ai toujours, je suis toujours traumatisé par des prestations qu'on a fait la saison dernière calamiteuses, notamment à domicile où au niveau tactique on était complètement débordés. Je me souviens de défaites contre Rennes, contre Nice, contre Monaco, jusqu'à le dernier match contre Toulouse où ça a été absolument sidérant la façon dont on a été baladé par une équipe de Toulouse en vacances. Et comme par hasard, la première défaite de cette saison, c'est encore à domicile dans un match que tactiquement on a pas du tout géré. On a été complètement battu, je trouve, par les Guingampais sur ce schéma-là, sur cet aspect-là du match. Donc bien sûr, il y a le turnover qui est très très critiquable. Je trouve qu'on met beaucoup de joueurs de côté là sur ce début de saison et je comprends pas très bien le projet, les choix de restreindre une équipe à quasiment 11, 12, 13 joueurs alors qu'on en a quand même beaucoup et beaucoup de talents derrière. On se sert pas de cette force et de cet atout. Mais au-delà du turnover, moi j'ai effectivement toujours un gros gros problème à comprendre le manque de pragmatisme de d'Orneland, le fait que on répète toujours la même tactique, même si nos adversaires la lisent bien et nous contre très bien. Et quelque chose en plus qui m'embête ces derniers temps, c'est que j'ai l'impression que notre jeu de possession, qui était censé fatiguer les adversaires et permettre d'ouvrir des brèches en fin de match, et ben ça marche plus trop. On avait vu en début de saison le fait d'avoir la possession, que ça avait fatigué des équipes comme Rodez, comme Clermont, quand on est allé gagner chez eux en deuxième mi-temps, on avait renversé la situation. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on a beau avoir le ballon, on n'en fait pas grand-chose et que les autres sont pas très très inquiétés, et au contraire nous contrent très bien. Donc voilà, j'étais un peu long, je suis désolé, mais pour moi, ça résume un peu tous les griefs que j'ai contre Orneland. Et pour moi, c'est absolument pas résolu sur ce début de saison. Je vois pas vraiment de progrès.
Alors, tu dis il y a une absence de pragmatisme dans le sens où il n'y a pas d'adaptabilité chez Orneland, semble-t-il, en tous les cas, il ne le souhaite pas. Donc, on est toujours dans le même schéma. Moi, j'ajouterais qu'on est dans le même schéma en n'étant pas très bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans son idée de venir presser, de mettre de l'intensité. Bon, on sait que il le dit 4 fois par phrase. Je trouve pas qu'on soit très bon. Enfin, je trouve pas qu'on ait une équipe. Alors, c'est sûr que sur certaines situations, ça nous arrive de récupérer un ballon, mais globalement, je ne trouve pas qu'on soit très bon. Alors, dans le conducteur d'émission, j'ai mis un match qui confirme les doutes. Pat, est-ce que t'es d'accord avec moi si je dis qu'on a vu contre Guingamp quelque chose qu'on redoutait en fait depuis le début de la saison. Enfin, moi, je le redoutais, que j'ai jamais trouvé qu'on était très très au-dessus, très en contrôle de nos rencontres. Et là, on l'a été encore moins. Et puis, on a mordu la poussière.
Quel magnifique lancement. Je vais maturer encore les foudres de certains du forum. J'ai eu quelques débats assez passionnés avec eux. Mais effectivement, je ne peux que te rejoindre et rejoindre ce que Dissident a dit juste avant. Pour moi, ce match, effectivement, confirme les craintes que moi je ressentais, même quand la série était bonne sur les matchs précédents, hormis quelques rares matchs, où, notamment contre Rodez, où on a vu une équipe effectivement dont le projet de jeu et la domination faisaient en sorte que vraiment ça donnait l'impression de bien dominer son sujet. On a eu quand même beaucoup de victoires. Un peu j'ai envie de dire à l'arrache, même si on a toujours eu le ballon, qu'on a eu quelques situations, mais à chaque fois on se retrouve confronté au même problème, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui a le ballon, qui domine, mais qui peine quand même, une fois franchi les 30 derniers mètres, à se créer des situations dangereuses parce qu'elle a envie de porter le ballon quasiment jusque dans le but. Donc souvent ça crée de beaux mouvements, mais qui manquent d'efficacité à la fin. Et à chaque fois on se fait contrer de la même façon, c'est-à-dire qu'on prend l'adversaire récupère le ballon, ils envoient le ballon sur un côté, ils arrivent à trouver un milieu démarqué toujours au milieu de notre milieu et ils balancent de l'autre côté et ça part à chaque fois en contre et à chaque fois ça crée une situation. Donc effectivement, si on s'en tient qu'aux statistiques pures, ça n'a pas toujours été très dangereux, mais moi à chaque fois que je vois ces situations se développer, je tremble, je psychote, et comme j'ai tremblé et psychoté toute la saison dernière sur les mêmes situations en Ligue 1 avec des joueurs de bien meilleure qualité évidemment, mais à chaque fois c'est ce qui se passe. Et contre Guingamp, ça a été la quintessence de tout ça. À chaque fois, de toute façon, l'entraîneur de Guingamp l'a très bien dit, c'était de toute façon, il fallait jouer en surnombre sur leur côté, ils sont toujours en sous-nombre. Donc à chaque fois, ils faisaient ça. Et à chaque fois, ça créait une situation. À chaque fois, on voyait l'ailier Guingampais venir quasiment jusque dans nos 16 mètres. Et à chaque fois, s'il n'était pas attaqué, à chaque fois, ça pouvait permettre un centre, une passe, une situation. Et on a pris les 3 buts à chaque fois sur ces situations-là. Alors, OK, on peut dire, ouais, ils ont de la réussite, l'Arsenal repousse à chaque fois sur un joueur tout seul, la défense centrale ne suit pas forcément, bon, bref. Mais si on regarde bien, ces situations-là, on les a eues quasiment sur tous les matchs. Et à chaque fois, quand on regarde, on a aussi ce sentiment que quand l'adversaire arrive à nous passer derrière, ce qui arrive quand même, sur les premiers matchs, arrivait pas souvent, mais arrivait quand même, bien à chaque fois, ça fait quasiment but à chaque fois. Donc c'est peut-être la conséquence de notre jeu de possession voulu par Arneland. Mais voilà, ces doutes à chaque fois sont là. Et je suis presque sûr que contre Le Mans samedi, quand je serai au stade et que je verrai notre système défensif face aux contre-attaques adverses, et je vais trembler à chaque fois parce que Le Mans va jouer exactement de la même façon comme tous nos adversaires vont jouer de cette façon. Donc pour moi, ça confirme ces doutes. Effectivement, c'est un sérieux rappel. Sur les carences du système de jeu qui n'ont pas été corrigées malgré le remplacement de tous les défenseurs pratiquement. Et pour moi, c'est un vrai sujet qu'Arneland doit traiter. C'est impératif.
Oui, la perte et la manière dont réagit l'équipe à la perte du ballon, c'est un souci. Parce que y a des boulevards. Alors, c'est pas systématique non plus, mais c'est tellement souvent qu'à la perte du ballon, on se retrouve en danger que c'est inquiétant de mon point de vue. Surtout qu'un certain nombre de fois, compte tenu de la qualité parfois relative de l'adversaire, eh bien, il y a des bonnes opportunités qui ne sont pas menés à terme. Il est bien évident qu'avec des joueurs de plus grande qualité, on serait plus en danger que ça encore. Et je ne crois pas que ça soit lié aux défenseurs. Hein. Je pense que c'est vraiment un problème d'organisation. Et je ne vois pas de progrès, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète un peu. Et on se retrouve dans une situation où, quand les trois de devant, comme c'était le cas à Saint-Guingamp, ne sont pas bons, parce que je crois qu'on peut dire qu'ils n'ont pas été bons, même si Boaké a été meilleur que Stassin et David Ajvili, eh bien, on a du mal à faire la différence. Et du coup, je pense qu'on joue encore plus haut et qu'on s'expose encore plus. Alors, juste un petit mot sur Guingamp. Je vais m'adresser à quelqu'un de plus mesuré que moi pour avoir un avis de quelqu'un de tout à fait raisonnable. Dissident, c'est à toi que je fais allusion. Moi, j'ai trouvé qu'avec un style légèrement différent de Grenoble, c'est-à-dire avec des contre-attaques mieux menées, pas forcément un jeu plus offensif, mais avec un jeu moins caricatural que Grenoble, j'ai trouvé que dans l'état d'esprit, ils étaient au même niveau. Et vraiment, j'étais très, très énervé à la fin avec En Point d'Orgue, l'espèce de... faut pas que je sois grossier, mais le jeune qui vient, qui est un joueur de N3 qui joue probablement le match le plus intéressant de sa vie et qui vient devant le Coq Nord au lieu d'aller fêter ça avec ses propres supporters. Mais enfin, tout du long du temps perdu, du mauvais esprit pour sortir. Sidi B, le 8, c'est un miracle quand même, c'est un miracle et une honte qu'ils finissent le match à chaque... occasion, il tapait dans le ballon pour quand il y avait un coup de sifflet pour perdre du temps. Et d'ailleurs, la seule fois où nous on l'a fait à Montpellier, on a pris un jaune, alors que l'autre il a pu le faire tout le match sans prendre de jaune. Sans parler des échauffourées de la fin de rencontre. Du coup, moi j'étais très remonté, non pas contre cette équipe sur son style de jeu. On est derrière et on contre. Et parfois plutôt bien d'ailleurs, mais sur leur état d'esprit. Voilà. Donc je voulais ton avis sur ce ressenti. Je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir eu, mais je sais aussi que certains, par hasard par exemple, étaient beaucoup plus mesurés que moi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté ?
Oui, moi j'ai noté clairement un manque d'humilité de cette équipe de Guingamp, mais j'ai envie de dire que c'est un peu un comportement qui a tendance à se généraliser. Je trouve, dans le foot et dans d'autres sports, je trouve que les sportifs d'aujourd'hui ont un manque de, je sais pas, le fair play, l'humilité, c'est un peu des concepts qui leur échappent, je trouve, de plus en plus. Et là, en fait, Grenoble, Guingamp, ça, pour moi, ça représente un petit peu aussi l'écart qu'il y a entre... l'institution qui est Saint-Etienne et la Ligue 2. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves à jouer devant 35 000 spectateurs alors que toute la saison, tu joues devant 2 000, sans faire injure au reste de la Ligue 2. Mais je pense qu'il y a une sorte comme ça de... psychologiquement, de se dire que c'est un peu le match de gala ou de super gala, comme par hasard le disait dans son édito. Et je pense que ça joue un petit peu aussi. Donc, je suis d'accord avec toi, Osvaldo, sur le fait que c'est très, très énervant. Hélas, je pense qu'il faut faire avec. Et parce que ça va pas changer. Il y aura d'autres équipes qui viendront avec exactement le même état d'esprit. Et il faudra qu'on soit plus fort qu'on l'a été pour éviter qu'ils nous fassent les scènes qu'ils nous ont fait à Geoffroy Guichard.
Une manque d'humilité, ça me paraît incontestable, même si on peut être moins sévère que moi. Leur cirque de photos type vainqueur de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, faut qu'ils se remettent un peu en question, je pense. Ils sont complètement à côté de la plaque. Et il y a un truc... Que je trouve très représentatif de ça, de ce décalage qu'il y a entre ce qu'ils sont en train de faire et la manière dont ils se comportent. C'est la célébration, comment on appelle ça ? Oui, la clim là. Où maintenant, ils sont tous là à faire une célébration. Je viens de climatiser le stade. Bon, les mecs je leur souhaite pas de mal, mais ils sont rien en termes de football. En tous les cas, ils n'ont rien prouvé encore et ils se comportent comme si c'était des cadors. Enfin bon, moi, j'en peux plus de ces types-là. On va pas faire toute la soirée là-dessus, mais par hasard, pour apporter peut-être un peu de nuance à ce que je viens de dire, nous, on en a pas mal parlé après le match. Est-ce que tu veux nous dire rapidement la manière dont toi tu as ressenti l'attitude des Guingampais ce soir-là? Est-ce que tu es très en décalage avec ce que j'ai dit ou voilà?
Il y a deux choses dans ce que vous décrivez. Il y a les photos, effectivement, les pauses d'après-match et puis la célébration sur le troisième but. Je vous rejoins là-dessus, ça m'énerve. Bon, j'attribue vraiment ça au fait que les mecs, c'est leur moment de gloire et quelque part, ils sont galvanisés par la foule et c'est le résultat. C'est-à-dire que s'ils jouaient à Geoffroy Guichard devant un stade à huis clos, il serait sans doute pas dans cette posture-là, mais bon, ça m'énerve aussi. En revanche, sur le comportement sur le terrain, moi, je te rejoins pas parce que c'est le comportement des équipes qui sont en train de faire un exploit à l'extérieur face à une équipe plus grosse qui a plus de moyens, qui a plus de talent et une équipe qui est supérieure. On voit ça, enfin, c'est universel dans tous les matchs de foot, de championnat d'Europe, de Coupe du Monde, de tout ce que vous voulez. Une équipe qui passe devant et qui a moins de moyens, bah, elle se met à gagner du temps, à procéder à tous les trucs assez minables. Et je ne leur en veux pas.
C'était poussé à l'extrême quand même. Quand tu vois le cirque des Grenoblois, ne serait-ce que sur la sortie du.
Mais moi, j'en veux à l'arbitre, en fait, pour ce truc-là.
Je suis d'accord avec toi, les arbitres ont une part de responsabilité. Le fait que ça se fasse sur tous les terrains du monde, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai trouvé là que même en tenant compte du fait que c'est assez généralisé, que c'était poussé à l'extrême et vraiment, c'est devenu insupportable.
Bon, voilà, mais moi, là-dessus, je suis un peu moins dur que toi. Et j'en veux surtout à l'arbitre, parce que notamment contre Grenoble, il a été nul là-dessus. Il n'a pas du tout trouvé les moyens de freiner ça, alors qu'il y a quand même des moyens en mettant 12 minutes d'arrêt de jeu, en mettant un carton à un mec qui joue au con. Enfin bref, il ne l'a pas fait, donc ça c'est nul. Et puis j'en veux un petit peu à notre équipe de se mettre dans les conditions aussi d'avoir à supporter ça, parce que... Si on était devant, bah, on constaterait moins ce genre de dérive. Si on avait la maîtrise qui est supposée nous donner notre talent, on ne se retrouverait pas dans ces situations foireuses, quoi. Mais bon, c'est un autre débat.
Ça rejoint quand même le débat général. Bon, après, là où ça peut être intéressant, c'est de réfléchir au talent qu'on a effectivement. Est-il si grand que ça? On va en parler en partie... au sujet de Lucas Stassin. Alors, je ne sais pas qui est en train de bidouiller le truc, là, sur mon écran, il y a plein de trucs qui bougent, je suis tout perdu.
Dénonce-toi.
Désolé, j'ai essayé de passer en douce, mais c'est raté.
Ouais, c'est raté. au sujet de Guingamp, je pense qu'on a fait... Ouais. Plus ou moins le tour. On va passer au match de Montpellier. Alors, la question, on peut la résumer par est-ce que c'est une vraie réaction? Est-ce que c'est rassurant? Qui a été rassuré par ça? Et c'est difficile d'analyser cette rencontre sans parler du début de match. Pat, on commence avec toi. Le premier point, je l'ai appelé un scénario improbable parce que franchement, se prendre un poteau au bout, je ne sais plus, j'ai oublié, je crois que c'est 50 secondes, et marquer sur la contre-attaque, ça n'arrive quand même pas tous les jours. Et quand on vient de perdre pour la première fois, qu'on va jouer en plus chez un club qui est censé être un gros de Ligue 2, qui a un enjeu fort, qui a une pression, Le ballon qui tape le poteau qui ressort plutôt que le ballon qui tape le poteau et qui rentre, à mon avis, ça peut faire une grosse différence. Alors, je voudrais savoir comment tu as vécu ce moment-là et comment tu l'analyses a posteriori. Est-ce que tu penses qu'il a eu un impact majeur sur le match ou est-ce que tu penses que dans tous les cas, même s'il était rentré, on aurait pu réagir et l'emporter? J'en profite avant de te donner la parole pour rappeler que nous sommes très friands de vos réactions, que ce soit dans le chat YouTube ou que ce soit sur le forum. Bien évidemment, n'hésitez pas. À toi, Pat.
Oui, ça n'a eu un problème. Oui, je pense que des scénarios comme ça, on n'en vit pas à tous les matchs. Ça, c'est certain. De se prendre un poteau au bout de 30-50 secondes et de marquer dans la foulée derrière, c'est sûr. Moi, ce que j'ai eu un double sentiment sur ce début de match, c'était d'abord, d'une part, on est clinique, parce qu'on marque deux buts en 20 minutes sur nos deux seules actions, et au final, ça a même été quasiment nos deux seules actions de toute la première mi-temps, si on accepte la mésentente entre Miladinovic et Stassin sur une action qui aurait pu finir également au fond, qui aurait fait 3 sur 3. On est clinique, mais les mots sont toujours là. Voilà, on en revient à ce qu'on a ressenti. Moi, j'ai ressenti la même chose que ce que j'ai ressenti sur bon nombre de matchs du début de saison. Donc oui, on a la réussite avec nous sur ce match-là, clairement, entre le poteau de Pays et la barre de Mendy. C'est sûr que Montpellier n'a pas eu la réussite que nous. Plus précisément
sur l'épisode de début de rencontre. Si on prend le pion, est-ce que tu imagines qu'on est capable de réagir ou est-ce que tu penses que c'est un gros tournant ?
Ça arrive très tôt quand même, donc ça laisse le temps de réagir. Et puis l'équipe a montré qu'elle était capable de faire ça. Maintenant, c'est quand même... c'est sûr que le match démarre pas pareil. on peut refaire tous les matchs comme ça, c'est sûr. Hein, c'est du foot fiction après. Mais c'est sûr que si on prend ce but d'entrée, après la défaite qu'on s'est pris la semaine d'avant, je pense que dans les têtes, ça aurait fait très mal. Et pour le coup, les choses ont bien tourné en notre faveur. Et ce scénario, je dirais... Alors, le terme improbable est peut-être pas non plus totalement vrai, je dirais plutôt scénario très favorable, qui tourne vraiment pour nous, nous a remis la tête à l'endroit, il nous a permis de gérer le match après, derrière, on va dire, je vais pas dire sereinement, parce que ça a quand même été par moments assez tendu, on a quand même bien souffert face à ces équipes de Montpellier, mais du coup, ça a quand même permis de remettre les têtes à l'endroit et de montrer que l'équipe était quand même capable de réagir. Mais c'est sûr que ce poteau d'entrée, s'il finit au fond, c'est pas la même histoire du tout.
Alors, ce match de Montpellier, donc, qui venait après la défaite, c'est vrai que tout le monde se demandait dans quelle mesure le groupe serait capable de réagir. Après, on le répète, une performance assez médiocre, en plus de la défaite. Donc, Missidan, est-ce que tu as le sentiment que les joueurs ont réagi, ont envoyé un message que Guingamp, c'était un accident? Est-ce que tu penses que la réponse apportée sur le terrain était à la hauteur des inquiétudes qu'on pouvait avoir?
Individuellement, il y a quand même des joueurs qui ont répondu. Et je pense en premier lieu à David Hachvili, qui avait été absolument transparent contre Guingamp. Et qui là a réagi de belle manière avec son doublé et un joli match. Donc individuellement, j'ai trouvé qu'il y avait des joueurs qui avaient réagi. Collectivement, j'ai pas senti une équipe qui avait retrouvé de la maîtrise, des automatismes et qui s'était un peu rassurée en équipe. On a comme Pat l'a dit, on a quand même pas mal de réussite sur ce match. On termine à 8 tirs seulement, je crois. 4 cadrés, 2 buts. Quand Montpellier tire presque 20 fois. On a eu la possession, mais encore une fois, on n'a pas su trop quoi faire du ballon. Et on a eu mal dès que Montpellier a accéléré. Après, autant effectivement suite à la défaite contre Guingamp, une deuxième défaite contre Montpellier aurait vraiment pu faire mal aux têtes. Là, je dirais que j'espère qu'avec la victoire à Montpellier, puis la trêve internationale. Ça a été l'occasion de remettre un peu les têtes à l'endroit. C'est toujours bien de gagner avant une trêve. Et ouais, j'espère qu'on va partir du bon pied. Mais encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que je vois pas trop l'équipe en progrès. Et j'ai pas été très rassuré par ce match à Montpellier, même si sur le papier, une victoire 2-0 à Montpellier, c'est quand même un très bon résultat.
Point de vue comptable, c'est incontestable. Hein. C'est un très bon résultat. Bon, Montpellier, ils ont montré deux ou trois choses intéressantes. Ils ont montré aussi des lacunes importantes, des largesses sur nos deux buts. Il y a quand même des erreurs défensives qui, à ce niveau-là, sont un peu étonnantes. Donc, d'une certaine manière, ils ont fait un bon match. Ils nous ont mis en difficulté, mais ils nous ont aussi fait des cadeaux derrière. Moi, ça me semble assez difficile de tirer des enseignements majeurs de cette rencontre. Par hasard, est-ce que tu es, avant qu'on parle du cas du Castassin, est-ce que tu es d'accord avec ce constat que c'est une rencontre qui n'est pas de nature à totalement nous rassurer pour les différents points qu'on a abordés?
Oui, enfin oui et non. Oui, au sens où notre prestation ressemble, et quelqu'un l'a dit, je crois que c'est décidant, il n'y a pas vraiment de progression. Notre prestation ressemble à d'autres prestations, c'est-à-dire que ça manque de maîtrise. Il y a une capacité offensive notamment à faire des différences qui nous permettent de nous en sortir dans la plupart des cas, et c'est un peu ça a été le cas ce soir-là. Mais ça manque de maîtrise. En revanche, là où c'est rassurant, de mon point de vue, c'est que je pense quand même qu'on va gagner chez l'une des cinq meilleures équipes du championnat. J'ai lu Midi Libre les 2 jours après le match. Ils ont clairement, les journalistes comme les joueurs interviewés après, ont clairement souligné que Montpellier avait fait son meilleur match de la saison sans aucun doute. Et on s'est finalement quand même imposé 2-0 après une défaite chez nous, donc on a bien réagi. Et en étant assez moyen, quand même 3 fois sur 4 on gagne, quoi. Donc je suis agacé par le manque de maîtrise comme vous. Je le constate, je le déplore et on a du mal à passer des soirées tranquilles. Et surtout on progresse pas, mais moi c'est le truc dans l'absolu, c'est le truc le plus gênant. Ensuite, derrière tout ça, il y a quand même, un, le fait qu'on a su réagir, et deux, le bilan de comptable qui reste bon et qui montre que peut-être qu'il ne va pas falloir être parfait pour finir champion de cette Ligue 2, quoi. Peut-être qu'on arrivera à être dans les 2 premiers, avec cette petite frustration d'un manque de maîtrise qui va se prolonger pendant 34 journées. C'est pas impossible. Mais du coup, quand
C'est
même
même le plus
rassuré,
probable.
quoi. Ouais.
C'est même le plus
Et là,
probable. Et moi, ça m'ennuie un peu parce que ce discours de construction, alors on a vu que Kilmer, ils ont fait beaucoup de choses en termes de structuration du club hors terrain. Mais sur le terrain, par contre, je vois pas beaucoup de progrès, je vois pas beaucoup de perspectives enthousiasmantes. Et j'ai du mal, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'ai du mal à imaginer que Orneland s'inscrive dans la durée parce que je pense que quand même les dirigeants, ils ont une grande expérience du sport de haut niveau et j'ai du mal à croire qu'ils soient satisfaits de l'évolution de l'équipe. Enfin bon, peut-être que je me trompe complètement, on verra ça. Par hasard, je reviens vers toi pour commencer au sujet de Lucas Tassin. On en parle énormément. Il y en a qui réclament dans la presse belge, par exemple, lui-même l'espère, qu'il soit à la Coupe du Monde avec l'équipe de Belgique. Il a, semble-t-il, été assez bon avec les Diablotins. Alors, peut-être pas dans le deuxième match où il a été moins présent, mais bon, il a quand même marqué sur penalty. Comment tu le classes, Lucas Tassin, après une saison et demie quasiment chez nous? Tu le vois vraiment comme un cador, un attaquant qui, même en Ligue 1, est au-dessus, enfin, fait partie des très bons attaquants de Ligue 1, quoi. Ou est-ce que tu penses qu'il y a un emballement qui est, au bout du compte, pas totalement fondé?
Je serais plutôt sur la deuxième option, mais c'est-à-dire sur l'emballement un peu excessif. Pas fondé, si, parce qu'en fait, de fait, il a 20 ans et ses stats vraiment plaident pour lui. Il a quand même claqué, si je dis pas de bêtises, 12 buts en une demi-saison. On avait, enfin, j'ai pas trop de souvenirs, à part si on convoque des grands noms comme Aubame. J'ai pas trop de souvenirs d'attaquants stéphanois sur les 30 dernières années qui ont, en une demi-saison de Ligue 1, marqué 12 buts. Donc, et puis, bon, il est parti sur des bases un peu similaires en Ligue 2, sans survoler ses matchs, si on met de côté un peu le match contre Reims. Ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai parlé d'Aubame, mais nos grandes références sur les 30 dernières années devant, il n'y en a pas 50. De toute façon, il y a Gomis et Aubame, voire Gradel sur une saison. Bah, si je compare à ces trois-là, je me dis qu'est-ce qu'il a comme talent qui éclate, qui saute aux yeux? Je vois pas trop, alors que les trois autres, on voyait bien les talents qu'ils avaient, qui faisaient, qui apportaient, enfin qui étaient rares. Aubame, c'était évident, c'était sa vitesse. Gomis, c'était plus sa force et sa soudaineté de frappe et sa capacité, voilà, à rentrer dans le ballon et enfin à déménager et aussi il n'était pas si lent que ça. Enfin bref, on se souvient de leur qualité et on se souvient de beaucoup de matchs où on s'est dit putain, le mec il est fort, il va être très fort. Sur Stassin, moins, mais ses stats plaident pour lui. Ensuite, je pense qu'il y a un truc qui joue, c'est qu'il y a à la fois lui-même, il est un très bon promoteur de son CV et de son parcours. Avec une franchise qui confine parfois à la prétention, mais qui est un peu rafraîchissante quand même. Par rapport, je pensais à Gomis, il avait un discours très policé, on sent qu'il a suivi des cours de communication pendant des années. Bon, Stassin, il dit ce qu'il pense, donc parfois ça peut un peu choquer. Et puis même la presse, en particulier la presse belge, la dernière heure notamment, pousse fortement au fait qu'il soit sélectionné avec l'équipe A de Belgique. Donc voilà, tout ça fait monter un peu la mayonnaise. Mais sur le fond, je suis un peu, parce que tu poses la question, donc j'imagine que tu es plutôt sur l'option numéro 2, à savoir qu'il y a un emballement excessif. Sur le fond, je serais un peu d'accord avec toi, effectivement.
Oui, bah, moi je trouve qu'effectivement, non pas que je sois persuadé qu'il n'arrive pas à un niveau exceptionnel un jour, je lui souhaite, mais à ce stade, j'ai du mal à comprendre effectivement une campagne de presse qu'il réclame dans le groupe pour la Coupe du Monde et même des offres, semble-t-il, à plus de 30 millions d'euros, donc au dernier mercato. Et puis maintenant, il semblerait qu'on se fasse attaquer par la Roma. On va y venir. Avance à Pat. Ton opinion sur la qualité de Lucas Stassin, est-ce que tu as envie de t'emballer comme certains le font, hein, j'utilise la formule Cador de Ligue 1, c'est parce que c'est ce que j'ai lu parfois sur les réseaux sociaux, mot pour mot, donc sous-entendu, enfin pas sous-entendu, c'était expliqué après, c'est même pas, la question ne se pose pas au sujet de Stassin, parce que c'est même pas qu'il est bon en Ligue 2, c'est que même en Ligue 1, il est au-dessus. Est-ce que tu as ce sentiment? Est-ce que ces qualités, ces stats font que tu partages ce sentiment? Ou est-ce que tu es un peu mesuré sur le potentiel réel ou le niveau réel aujourd'hui de Lucas Stassin?
Comment dire, si on regarde sur l'entrée qu'il fait par exemple à Clermont, là, moi quand il est rentré à Clermont, qui claque ses deux buts, qui attire le ballon, qui fait en fait, c'est juste impressionnant la différence de niveau qu'il y a entre lui et les autres. Et en se disant qu'il revenait de blessure, qu'il n'était pas encore à 100%, qu'il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Je pense qu'intrinsèquement, en termes de qualité, qu'elle soit footballistique, par rapport au niveau moyen de Ligue 2, il n'y a aucun doute, il est très largement au-dessus. Je réfléchis un peu, mais je me faisais la réflexion. Je crois que je sais plus sur quel match c'était. C'était pas Guingamp, ça c'est sûr. Mais après ce match à Clermont, je crois que c'était contre Reims. J'avais quand même le sentiment, en le voyant avec le ballon à chaque fois, qu'il était largement au-dessus des autres. Il attire le ballon, il est facile à trouver. Il arrive toujours à faire soit la bonne déviation, soit à se mettre en situation pour se créer des occasions. Alors après, il est jeune, donc il pêche encore un peu dans la finition, mais malgré tout. Enfin, intrinsèquement, il est quand même largement au-dessus des autres. Moi, ce qui me, pour l'instant, me laisse un peu en réserve, c'est ce que je disais juste avant, c'est que pour moi, il est loin d'être encore à 100% de ce qu'il a pu montrer en Ligue 1. Et à mon avis, son potentiel, il est encore au-delà. Donc, le sentiment que j'ai, et c'est un peu mitigé, c'est qu'à mon avis, il finit de digérer son mercato, comme il l'a dit. Ses déclarations qu'il a pu faire dans la presse récemment montrent qu'il a encore du mal quand même à digérer le fait qu'il soit pas parti. Ça va venir, ça va aller, même si il y a d'un côté les phrases où il dit qu'il est très content de finalement d'être là, mais en même temps quand il dit que le championnat d'Arabie Saoudite, ça vaut largement la Ligue 2, si ce n'est la Ligue 1. Bon, voilà, ça montre aussi qu'il a quand même pas totalement digéré sa volonté de partir. Donc, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ça encore. Et moi, je l'attends vraiment, comme la pierre angulaire de notre attaque. Il a un statut. On l'a attendu effectivement, vraiment à son retour de la saison, comme un peu comme le Messi, hein, comme vraiment notre attaquant qui doit faire la différence en Ligue 2. Pour l'instant, le joueur qui fait plutôt cette différence-là, et je suis un peu surpris, c'est plutôt Jurico Davitashvili actuellement, même s'il y a des moments, il est vraiment sur le courant alternatif. Donc, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, qu'il fera sans doute beaucoup mieux. Je pense qu'on n'a pas tout vu de Lucas Tassin encore cette saison. Mais voilà, le potentiel est là, il faut qu'il fasse beaucoup plus. En tout cas pour moi.
Écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein, parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dire que c'est un mauvais joueur, que ce soit par hasard ou moi, on a beaucoup apprécié certaines de phases de jeu dans lesquelles il est impliqué. On est conscient de certaines de ses qualités. Alors, s'il peut faire encore beaucoup mieux, et je pense qu'il peut faire mieux, effectivement, comme toi, Pat, ça nous promet quelques jours heureux. Alors, il y a quelque chose, par contre, une question qui va se poser à cause de cette organisation du foot moderne qui, pour tous les mastres, est totalement insupportable. Le mercato hivernal fait partie des choses qui biaisent un peu les compétitions. Bon, alors nous, on en a profité à plusieurs reprises avec des recrutements qui parfois ont été franchement réussis. Pas la saison dernière, hein. Mais cette année, de la même manière qu'on s'est fait attaquer au mercato estival, là, on va, semble-t-il, se faire attaquer au mercato hivernal sur le cas Lucas Tassin. Alors, avant de donner la parole à Dissident sur ce sujet, on écoute Verivel qui a levé la main. Alors, Verivel a levé la main une fois. Verivel a levé la main deux fois. Bon, ça sera après alors, hein, parce que Verivel a disparu. Donc, dissident, au sujet de Lucas Tassin, est-ce que pour toi, c'est absolument inenvisageable qu'on le laisse partir? On sait que parfois c'est difficile d'empêcher un joueur de partir, surtout s'il est encore un peu dans la frustration du mercato estival. Comment tu vois les choses? Est-ce que le groupe est capable est suffisamment bon pour monter sans Stassin? Enfin bon, voilà. Quel est ton point de vue sur les attaques qu'on risque de subir dans pas si longtemps que ça, hein, au sujet du Castafin?
Alors moi déjà les gars, je m'emballe, hein. J'ai envie de m'emballer quand même sur Lucas Tassin. Je vous trouve un peu rabat-joie sur ce joueur. C'est hyper rare qu'on ait un joueur de 20 ans avant-centre avec ce toucher de balle, cette impression effectivement que de temps en temps il est au-dessus des autres, clairement. Qui marque 12 buts l'année dernière en Ligue 1, qui repart sur des bonnes bases cette année, qui est capable d'être renard des surfaces pour marquer des buts comme il en marque par exemple à Amiens, et puis aussi de faire des frappes de loin comme il fait contre Reims ou l'année dernière dans le derby. Et en plus, pour en revenir à ta question, Osvaldo, effectivement, un joueur à haut potentiel, c'est-à-dire qu'on sent qu'il peut aller encore plus haut. Et je pense que dans le projet Kilmer, c'est exactement le genre de joueur qu'on doit garder, qu'on doit être capable de garder plusieurs années, plusieurs saisons. C'est vraiment ce genre de joueur qui va nous permettre de passer des paliers et des caps. C'est vraiment voilà une base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Donc pour moi, ce serait vraiment un énorme échec qui parte cet hiver, comme ça aurait été un énorme échec qui parte cet été. Donc j'espère que puisqu'on a réussi à le garder cet été, on arrivera à le garder cet hiver. Je pense que c'est vraiment important de le mettre en avant, d'aller dans son sens un peu. C'est quelqu'un, ouais, un peu, on dirait un peu crâneur à l'époque, mais je pense que c'est typiquement le caractère qu'il faut pour un avant-centre. Et il faut le mettre en avant, il faut aller dans son sens. Et le seul bémol, et ça m'embête beaucoup, c'est qu'il y a la Coupe du Monde l'été prochain et que j'ai l'impression que Stassin, c'est un objectif quand même très très important pour lui. Et le problème, c'est qu'il y a le conflit avec Rudy Garcia. Voilà, rien qu'en prononçant ce nom, je me crispe déjà. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que Rudy Garcia, dans sa tête, un joueur de Ligue 2, il ne va pas le sélectionner pour la Coupe du Monde et que ça doit forcément, forcément jouer dans la tête de Stassin, dans la tête de ses agents. Et ça, je pense que c'est le pire ennemi dans cette histoire, le pire ennemi de la SSE, c'est pour moi, à mon sens, c'est Rudy Garcia.
Ouais, bah c'est intéressant tout ça. Alors déjà, moi je trouve ça super agréable que tu sois enthousiaste sur Lucas Stassin, moins rabat-joie que par hasard et moi par exemple. C'est super. Et puis effectivement, c'est difficile d'imaginer que la perspective de la Coupe du Monde n'est pas un impact fort sur sa manière de réfléchir à Lucas Tassin. Alors moi, je pense que c'est trop tôt pour lui. Hein. Je ne pense pas qu'il ait le niveau de la Coupe du Monde. Mais lui pense le contraire. Il a tout à fait le droit. Et ça peut devenir un point de crispation. Je suis d'accord avec toi. Verivel, est-ce qu'on t'a retrouvé? Parce que toi, tu avais envie de dire un petit mot sur Lucas.
Oui, et vous m'entendez ou pas? Allô,
Je
allô?
t'entends parfaitement.
Ah, ben, si vous m'entendez, c'est très bien. Désolé, je crois qu'il y a mon casque qui a rendu l'âme entre-temps. Je voulais juste dire que, effectivement, moi aussi, je vous trouve extrêmement difficile avec Lucas. Et en tous les cas, alors, si on ne peut pas vraiment imaginer ce que sera la suite de sa carrière, même si elle a déjà bien démarré et qu'il est vraiment dans les temps de grands noms comme la cité par hasard. Donc on peut quand même imaginer qu'il aura le même genre de carrière. En tous les cas, cette année, cette saison, c'est un atout absolument incroyable pour notre équipe d'avoir un tel joueur à la pointe de l'attaque. On a vu quand même que sur les matchs, on le sent quand même. Capable de marquer à tout moment et mettre la misère aux défenseurs adverses. Là, en Ligue 2, en tous les cas, c'est incroyable d'avoir un joueur pareil à la pointe de l'attaque. Et donc, il faut qu'on en profite vraiment à fond, sachant qu'effectivement, peut-être qu'on ne l'aura pas toute la saison, mais ça, c'est autre chose. J'espère que si. En tous les cas, un atout complètement dingue pour nous cette saison.
Alors, et puis, bon, moi, je voudrais dire quand même, même si c'est moins dans l'analyse footballistique, que je suis spécialement content qu'il y ait un joueur belge qui réussisse à Saint-Té, compte tenu du pourcentage très important de sang belge qui coule dans mes veines. Et je voulais dire aussi, puisque Dissident s'est positionné très clairement, que je partage tout à fait son point de vue. Un départ de Lucas Tassin serait un échec pour qu'il meure, compte tenu de la politique qu'ils affirment vouloir mener, cette politique de construction sur le long terme. Par hasard, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe à l'équipe du Mans?
Ouais, je voulais dire deux petites choses. La première, c'est que je voulais faire un mea culpa dans ma liste des grands attaquants des 30 dernières années. J'ai quand même oublié un mec inoubliable, qui est Alex. Bon, voilà. Qui n'a pas marqué plus de buts, enfin si, peut-être 15 sur une saison, mais sur une saison entière, mais qui avait un talent qui, pour le coup, vraiment irradiait nettement plus immédiatement que celui de Stassin, mais finalement en étant moins efficace. Mais voilà, je m'en serais voulu d'oublier de le mentionner.
Il a fait deux saisons de suite contre Marseille, c'est quelque chose qu'on ne reverra probablement jamais.
Ouais,
mais il était plus vieux, il n'avait pas 20 ans, Alex, quand on l'a vu arriver. Il était plus vieux quand même.
Oui, c'est vrai. Mais Stassin n'aura jamais, je pense, le brio d'Alex, cette vivacité, cette capacité. Mais il est énorme statistiquement, il n'y a rien à dire, et je pense qu'il a beaucoup confiance en lui. Je voulais juste dire aussi, mon deuxième point, c'est que je me demande si au mercato d'hiver, tout ça ne va pas se régler avec une prolongation doublée d'une revalorisation, parce que finalement, il sera là depuis un an et demi. Et le monde du foot est fait que de telle manière que quand un joueur éclate comme ça, et a des stats énormes, ce qui se passe quand le club a les moyens de le garder, c'est qu'il y a une prolongation assez vite. Et d'autant plus que venant de Westerlo et signant chez nous, je ne suis pas sûr qu'il ait un salaire énormissime. Donc je verrais bien ça, moi.
Ça veut dire que si on refait le mastre éclate, je peux être prolongé et augmenté ?
Bah écoute, si on considère que tu as l'importance dans les performances dont fait le mastre que Stassin a dans les nôtres, pourquoi pas ? Mais cette précision est importante.
Oui, moi, je propose qu'on multiplie ton salaire par deux. Il n'y a pas de souci.
Après, on peut aussi inciter tous nos potonautes qui nous écoutent à alimenter la cagnotte Litchi, justement, pour payer le salaire d'Osvaldo.
Alors, attention, ce n'est pas Litchi, par contre. C'est Elo Asso.
Elo Asso, tout à fait.
Faut être précis. Allez-y, donnez des sous.
Ouais. Ok, donc on en reste là pour ce qui concerne Lucas Tassin. On est tous d'accord de toute façon que c'est un atout, c'est tout à fait évident. Après, on a quelques divergences sur le potentiel réel, le niveau exact auquel on peut le placer aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on est très très contents de l'avoir avec nous. Et puis j'ai spécialement, tiens encore, je reviens sur ce que Dissident a dit, j'ai spécialement apprécié qu'il parle de crâneur. C'est vrai que c'était le terme de ma jeunesse, crâneur, et c'est dommage que ça soit moins utilisé maintenant. C'est très joli mot qui dit beaucoup pour ceux qui ont connu cette époque. Alors, Le Mans. Pat a lancé un peu le sujet tout à l'heure. Et il a dit Le Mans, une équipe qui risque de jouer contre comme Guingamp, ou c'est par hasard, je crois que c'est Pat. Mais... et en plus, c'est une équipe en forme, retour de trêve. C'est toujours particulier la reprise avec une trêve, avec les joueurs qui n'étaient pas là, etc. Pat, justement. Le Mans, typiquement l'équipe qui est susceptible de nous mettre en difficulté en jouant bloc bas et en partant en contre, ça va être un test. Tu vas nous dire si tu es d'accord avec ça. Ça va être un test pour Horneland. Est-ce qu'il va être capable d'adapter un petit peu ses consignes pour ne pas retomber dans le travers de ce qu'on a connu contre Guingamp?
Je vais être un peu pessimiste sur ça. Je ne vois pas du tout Arneland s'adapter à l'adversaire et essayer d'adapter sa tactique pour éviter de se faire ouvrir sur les ailes. Je pense que j'en prends mon parti. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Maintenant,
Est-ce
pour
qu'on est
revenir.
d'accord que si on est face à une équipe qui joue de la même manière et que lui ne change rien, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un souci du coup?
Bah, tout dépendra si cette fois on arrive à faire mieux offensivement que ce qu'on a fait contre Guingamp et que si
C'est
l'équipe est
les
dans un
trois
meilleur
offensives.
état.
C'est ça, c'est le problème, les trois offensives qui peuvent cacher la forêt.
Parce qu'intrinsèquement parlant, enfin, j'aime bien utiliser ce mot ce soir, mais voilà, théoriquement, cette équipe du Mans qui vient de remonter de National, elle a quand même de belles qualités. Moi, j'ai regardé le match quand elle a joué contre 3, et effectivement, j'ai vu quand même quelques bonnes qualités. Néanmoins, bon, ça reste quand même une équipe que normalement, avec une organisation bien en place et une efficacité, on va dire, normale dans le jeu offensif, qu'on doit battre normalement. Mais c'est également ce qu'on se disait contre Grenoble, c'est ce qu'on se disait contre Guingamp également. Je pense que vraiment l'adversaire le plus fort qu'on devra battre, c'est nous-mêmes, encore une fois. Donc effectivement, on va se prendre ces vagues-là, c'est sûr. Elles ne seront pas comme Montpellier avec aussi une pression milieu de terrain où on a beaucoup subi. Je pense que là, on va avoir le ballon. D'autant plus que normalement, on devrait retrouver quand même nos milieux de terrain titulaires. Donc ça devrait quand même nous permettre d'avoir le ballon. Nos attaquants seront de retour. J'espère aussi que ça se passera bien. La défense, on en reparlera plus tard. Mais normalement, si tout va bien, on devrait, même en se prenant nos vagues derrière, de pouvoir assurer l'essentiel, à savoir la victoire, si devant, ça fait le boulot, quoi. Donc, je ne pense pas qu'on ait à avoir peur de cette équipe, même si elle est en forme et comme tout promu qui vient de monter, il y a l'euphorie de la remontée, même si pour eux, ça s'est manifesté un peu plus tard que peuvent l'avoir d'autres équipes, parce qu'ils ont pris leur point quand même plutôt récemment. Mais il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Et j'espère vraiment que, à défaut de pouvoir mettre en place un pragmatisme sur le jeu, le repli défensif, j'espère au moins qu'offensivement, on retrouvera ce qu'on a quand même vu dans pas mal de matchs, malgré mes critiques parfois acerbes. On a quand même un fond de jeu qui commence à se dessiner, des phases de passes, notamment jeu à 1, 2, 3, qui permettent souvent de déboussoler les défenses et milieux adverses. Et ben j'espère que cette fois, on verra ça, comme on a pu le voir contre Rodez notamment, ou même contre Reims, qui avait un marquage plus lâche, pour pouvoir marquer des buts à cette équipe. Et si on en prend, au moins s'assurer une victoire. J'espère sans trop trembler, parce que bon, si on commence à avoir peur d'une équipe comme Le Mans, bah, c'est même pas la peine de parler de monter, quoi, au bout d'un moment. Donc voilà, c'est un match qu'on doit aborder sereinement avec nos forces, en essayant de combler nos faiblesses, mais j'ai bien compris qu'Orneland, de toute façon, ne souhaitait pas se renier sur ça, et faire en sorte que malgré tout, ça nous fasse 3 points à la fin. Mais bon, j'avais le même discours avant Guingamp, donc.
Ah,
Forcément, quand même,
il n'est pas question d'avoir peur du Mans, mais plutôt
de
d'avoir
notre équipe,
peur
c'est plus ça.
que la puissance offensive ne s'exprime pas et ne vienne pas combler les manques, on va dire, dans le jeu collectif. Alors, il y a quand même un souci par rapport à cette rencontre. Par hasard, je viens vers toi parce que ça touche la charnière centrale. Et qui dit charnière centrale dit Michael Nadé, et qui dit Nadé dit par hasard. Bernauer suspendu. Chico Lamba, a priori, qui va être forfait et qui devrait être forfait assez longtemps. Alors, j'ai pas vu les dernières news sur le sujet, mais ça sent pas bon, semble-t-il. Là, c'est un peu embêtant. On se retrouve un peu à poil, puisqu'il semblerait que Batu Binsika soit pas une option. Donc là, il va falloir recomposer.
Alors, il a clairement été, enfin, il a été clair. Il a clairement été clair. Il a été clair, Orneland, en conférence de presse aujourd'hui, non pas sur la blessure, parce qu'ils nous font une cachotterie. Donc, a priori, Ce que la rumeur dit, c'est que c'est une pubalgie, et donc qu'il aurait été opéré, mais Orneland ne l'a pas confirmé. En revanche, il a dit que ça se compterait en semaines, son absence, et à force de l'interroger sur la question, il a fini par lâcher que ça pouvait durer 5, 6 ou 7 semaines. Donc ça, c'est pour la durée de l'absence. Ensuite, là où il a été très clair, c'est sur le remplacement de Chico, puisqu'il a dit que ce serait, comme à Montpellier, Ferreira qui serait repositionné dans l'axe, en précisant qu'il avait joué dans une défense.
Tu vas nous
Oui,
dire ce que tu en
pardon.
as pensé. Tu vas nous dire ce que tu en as pensé, mais je dois dire que le petit intérim qu'il a fait, je l'ai trouvé plus convaincant. J'ai été très agréablement surpris, plus convaincant dans l'axe que côté droit. Vraiment, je l'ai trouvé très bon quand il a été repositionné dans l'axe. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, 20 minutes peut-être.
Bah 45, puisqu'il est sorti à la mi-temps, Lamba. Ça a duré une
45,
mi-temps.
plus alors. Plus, oui. Moi, je l'ai trouvé très bon.
Alors, ouais, moi je l'ai trouvé pas mal. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, au Portugal, à Braga, d'après ce que Ronaland disait cet après-midi, il a déjà joué en défense centrale dans une défense à 3. Donc, il semblait dire que ce n'est pas un poste qu'il découvrait. Et du coup, je ne suis pas forcément très inquiet, d'autant plus que, de mon point de vue, qui n'a rien d'objectif, tu vas me dire, mais je trouve que dans la charnière centrale actuelle, le plus performant, ce n'était pas Lamba, c'était Nadé. Et voilà, je trouve que Lamba, mais c'est sans doute lié à sa blessure, était un petit peu en dessous de ce que j'espérais de lui. Au vu de son CV et notamment de son statut d'international espoir portugais. Donc, c'est pas dramatique si on n'a pas d'autres blessures, je pense que c'est pas dramatique. Bernauer en Ligue 2, quand il reviendra de suspension, je pense que c'est un bon défenseur central de Ligue 2, qui en plus peut être bien complémentaire avec Nadé. Et puis, Ferreira, bah, on a du monde à droite pour le remplacer. Je pense qu'Appia en Ligue 2, c'est une solution correcte. Je pense que Masson, c'est une solution aussi très correcte si Orneland accepte de le remettre dans le circuit. Et semblerait, c'est ce qu'il a un peu dit en conférence de presse, il semblerait qu'il n'ait rien contre le fait de le remettre dans le circuit. Donc voilà, c'est un peu emmerdant, mais si on n'a pas d'autres tuiles. Il n'y a pas de raison, enfin, ça sera pas une excuse suffisante pour expliquer un coup de mou défensif, de mon point de vue. Donc, je ne suis pas encore trop inquiet.
C'est certain que si Masson rentre dans la danse, dans le turnover, on se retrouve avec un joueur qui peut jouer latéral droit ou latéral gauche, et ça change beaucoup de choses, puisque ça donne de la profondeur de banc en défense, et en particulier sur les côtés, et ça nous manquait. Alors, le fait que Ferreira ait un peu d'expérience en charnière centrale, ça ne m'étonne pas, puisque, comme j'ai dit, j'ai trouvé qu'il s'était adapté très vite. Et donc, ceci expliquerait cela. Quant à Denis Appiah, tu dis c'est correct en Ligue 2. Oui, c'est largement. Je pense que c'est un joueur sur lequel on peut compter. Bon, on sait que c'est peut-être pas le meilleur défenseur latéral du monde, mais c'est quand même un joueur sur lequel on peut compter avec en plus un excellent état d'esprit. Alors, on va terminer l'émission avec Dissident. Il y a le problème en défense. Il y a l'attaque dont on est très dépendant, on l'a dit à plusieurs reprises. Et Dissident qui râle un peu sur l'incapacité d'Orneland à faire évoluer les choses. Je voudrais te soumettre une idée. Alors, tu m'as peut-être pas attendu pour y penser, mais qu'est-ce que tu pensais justement en termes d'adaptation? Alors, chose que ne fera pas Orneland, mais est-ce que ça fait pas partie des choses qui te font envie de voir non pas un trio offensif, mais un quatuor offensif avec Boakye qui me plaît beaucoup depuis le début de la saison en position de numéro 10 derrière Lucas Tassin, et puis Cardona et David Hachvili sur les côtés? Est-ce que ça ne fait pas un peu rêver en Ligue 2 sur le plan offensif?
Ah bah ça résonne en moi, hein, ce que tu dis Osvaldo. Effectivement, je pense que Boakye a montré vraiment des capacités vraiment précieuse dans, comme ça, un peu derrière l'attaquant, un peu en position recentrée. Donc oui, c'est vraiment quelque chose en tout cas qui mériterait d'être étudié. Surtout si ce serait à la place de Tardieu, j'imagine que tu le verrais. C'est vrai que bon, Tardieu est là, le problème c'est que
C'est
Tardieu
vrai.
a hein?
Pas forcément
Pas
Tardieu.
forcément Tardieu.
Non, non, pas forcément Tardieu. Parce que par hasard, qui me demande, je dis pourquoi je rigole, qui demande si c'est parce que je nous trouve trop solides offensivement. Ouais, défensivement, pardon. Mais c'est pas parce qu'on met plein de joueurs défensifs qu'on est solide défensivement. Mais non, pas forcément Tardieu, parce que Tardieu, s'il reste un petit peu en retrait et qu'il joue un rôle d'organisateur devant la défense, je pense qu'il peut être très bon. Voilà, Jabert Tardieu, un triangle avec une base Jabert Tardieu et puis Boakye en pointe.
Moi, j'aime
Par
bien,
exemple,
j'aime
par
bien
exemple.
Jabber en sentinelle. Bon, après, les goûts et les couleurs. Hein, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, là, on raisonne un peu sur pas grand-chose parce que je suis pas sûr qu'Orneland change ses plans, comme je suis pas sûr qu'il associe un jour Stassin et Duffus, contrairement à ce qu'il avait annoncé au début de saison. Ce qui pourrait aussi être une solution pour débloquer certaines situations. Bref,
En
à
tous les cas,
suivre.
moi j'ai envie de le voir plus de Fuss. Parce que je trouve qu'il a montré des choses. Alors je ne sais pas si c'est une envie que tu as aussi, mais moi j'ai envie de le voir plus souvent sur le terrain.
Ouais, j'ai envie de le voir plus souvent, j'ai envie de voir des combinaisons différentes, des joueurs différents. J'aimerais bien qu'on profite un peu de cette escouade offensive impressionnante qu'on a et qu'on en profite pleinement, quoi. J'ai pas ce sentiment-là sur le début de saison. Et je rajouterais enfin on a eu beaucoup d'internationaux au niveau des attaquants là, qui sont partis pendant 2 semaines. Davitashvili a pas mal joué, Cardona a pas mal joué, Stassin joue avec les Espoirs belges. Donc je ne suis pas certain de leur forme physique là sur le retour. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de faire un peu plus de turnover et d'imagination offensive.
Ouais, effectivement, comme je l'ai dit un peu en introduisant cette dernière partie, retour de trêve, il y a des joueurs qui arrivent avec des bobos, on n'est pas au courant, certains qui ont joué, d'autres qui n'ont pas joué. Enfin, c'est assez difficile. Et là, pour le coup, Orneland a un vrai travail de coach à faire. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Verivel, tu prends une dernière fois la parole.
Oui, juste avant de conclure, là, je voulais parler du chat YouTube parce qu'il y a Digital Baron qui te prête donc 10 centimes de salaire par mois. Donc, fois 2, ça te ferait 20 centimes. Donc, tu pourras passer à la compta donc après l'émission.
Alors, c'est 20
Mais
centimes par mois, c'est infiniment plus que ce que je touche actuellement.
et c'est oui, c'est bien pour ça que je pense que tu devrais réclamer ton dû. Voilà, je te prévenais comme ça. Et sinon, le même Digital Baron qui nous dit que Orneland n'a qu'une seule tactique et qu'il s'adapte jamais, ça c'est, on l'a déjà dit. Et il le compare sur ce point-là à Laurent Batless. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est la même chose ou pas, mais en tous les cas, il dit ça ressemble beaucoup à Batless, du moins au départ. Voilà.
Oui, sur l'incapacité, enfin l'incapacité, ou l'absence de volonté de faire évoluer le système, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'on a eu des discussions semblables au sujet de Laurent Batless, mais je crois que c'est pire avec Ornement, je pense. Enfin voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi, que ce soit en direct ou en podcast. Merci. À tous les quatre d'avoir animé cette émission avec moi. On vous donne rendez-vous, hein, on tient notre petit rythme mensuel, c'est bien comme ça. On vous donne rendez-vous le mois prochain. On attend impatiemment le match de samedi en espérant passer une bonne soirée. Et ben, bonne soirée à tous et allez les Verts.
Allez les
Allez les
Verts, allez les
Verts.
Verts.
Allez les Verts.